Descartes et l'enfance.
Chez Descartes, la pensée de l'enfance est enchâssée entre deux exigences. D'une part, l'enfant, en tant que petit homme, doit posséder la capacité rationnelle tout entière. Chez le fœtus aussi, on doit trouver des idées innées, y compris celles de Dieu. Mais d'autre part, il faut penser pour elle-même la non-actualisation de cette capacité rationnelle chez l'enfant. L'enfance désigne alors, négativement, le lieu, le temps de la formation des préjugés. En quel sens peut-on, si on le peut dans le cartésianisme, penser l'enfance comme une matrice positive pour l'être humain? Chez Descartes, l'enfance désigne le temps d'élaboration des préjugés, c'est-à-dire des opinions reçues d'autrui, dont l'enfant ne détient pas encore la capacité d'examiner lui-même et seul le bien fondé. Dépendant de ses nourrices, puis de ses précepteurs, et puis ensuite éventuellement des opinions des hommes parmi lesquels il vit, l'enfant désigne chez Descartes, selon l'expression de choc d'Henri Gouillet, celui qui est à tuer et à tuer en permanence en quelque sorte en chacun de nous. Plus localement, l'enfance désigne chez Descartes l'autre nom du préjugé hylémorphique, c'est-à-dire de la tendance spontanée que nous avons à peupler l'univers de petites âmes. La croyance si répandue en l'âme des bêtes est un résidu de ce que nous désignerions aujourd'hui comme une forme d'égocentrisme et de ce qu'à l'époque de Descartes on appelait l'anthropocentrisme. De ce que nous remarquons en nous que certains mouvements dépendent de notre volonté, nous en concluons, pour ceux des mouvements des bêtes qui ressemblent aux nôtres, qu'il en va de même chez elles. Les considérations cartésiennes sur l'enfance s'avèrent ainsi particulièrement opportunes pour décrire la genèse et les grandes thèses de la philosophie fausse, c'est-à-dire de la scolastique aristotélicienne. La croyance aux formes substantielles, aux qualités occultes, la croyance aussi que l'ordre du monde se conforme à mes désirs. Tuer l'enfant en soi implique du coup à la fois de chasser de la physique tout résidu de psychologisme, mais aussi de prendre en considération, d'intégrer cette part irréductible de l'enfance en nous pour édifier la physique nouvelle. Prenons l'exemple de la force de repos. Cette force est totalement contre-intuitive pour qui associe spontanément mouvement, force et éventuellement épreuve de cette force sous la forme de la volonté. Si l'on ne prend pas en considération dans l'argumentation la tendance spontanée que nous avons à identifier repos et absence de force, nous ne pourrons jamais parvenir à persuader le lecteur de la vérité de la force de repos dans la physique nouvelle. Il y a là une forme d'irréductibilité de l'enfance qui peut peut-être nous conduire à une pensée positive de cette dernière. Loin d'être l'autre absolu de la philosophie nouvelle, l'enfance en désigne ainsi à la fois le moment et une composante essentielle. Le moment. Nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, nous le sommes toujours un peu, et la philosophie adverse a choisi d'en rester à ce stade. Cela n'élude pas pour autant la question du statut proprement cartésien de ce moment, notamment de celui durant lequel, au début des méditations métaphysiques, nous envisageons l'âme comme un air, un souffle, un vent, bref, comme quelque chose de matériel. Une composante à présent. L'enfance désigne à la fois la tentation et le risque permanent pour l'homme. Car comment peut-il être certain d'être débarrassé d'une relation d'assujettissement affective et intellectuelle vis-à-vis d'autrui et d'une tentation de toute puissance vis-à-vis du monde? Mais l'enfance désigne aussi sa chance. D'un point de vue physiologique, elle se caractérise en effet par sa souplesse, par sa malléabilité, notamment du côté du cerveau, donc par une grande capacité à être éduquée. Alors que la vieillesse se caractérise par un assèchement progressif et complet du corps, donc par une impossibilité d'acquérir de nouvelles habitudes, l'enfance nous ouvre l'espace des possibles. Descartes n'a pas pensé lui-même de manière positive les conditions d'une bonne éducation dès l'enfance. Mais il a laissé à ses successeurs tous les matériaux pour le faire, en y intégrant le poids des déterminations qui s'exercent sur l'homme à cette période de la vie et l'espace des possibles ouvert par la malléabilité que cette période pré-rationnelle offre à la rationalité humaine.